Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Cet épisode a été enregistré à Rimouski au mois de mars dernier lorsque j'ai fait mon petit tour de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. J'ai énormément aimé l'enregistrer et vous allez le comprendre, je pense, si vous restez jusqu'à la fin, car une petite surprise vous attend. Je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Patricia.
Allô Alexa.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, merci. Merci de me recevoir dans ta maison à Rimouski. Mais tu ne viens pas de Rimouski et tu vas nous le raconter. Est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, donc moi c'est Patricia Oyiwang, je suis née à Montréal et je suis à Rimouski depuis 4 ans.
Et donc, toi, tes parents, c'est tes parents qui sont installés à Montréal, c'est ça?
Oui, disons ça. Mais en fait, la plus grande histoire, c'est, pour un peu mettre le contexte migratoire familial, donc c'est mes grands-parents, les derniers, qui ont vécu en Chine. Ils sont nés en Chine, ils ont vécu en Chine. Mes grands-parents ont ensuite immigré à Madagascar à différents moments, là, pour mon père et pour ce qui est du côté de ma mère. Et mes parents, mes tantes, mes oncles sont nés à Madagascar et ont grandi là. Bon, mon père est né à Hong Kong, mais à un an, il était déjà à Madagascar. Donc, c'est comme si il était né là. Et ensuite, toute la génération de mes parents, ils ont immigré dans des pays occidentaux comme la France et le Canada. Et mes sœurs et moi, on est nés à Montréal.
D'ailleurs, c'est une cute histoire, la façon dont tes parents se sont rencontrés. Est-ce que tu pourrais le raconter?
Avec plaisir. Donc, jeune adulte, ils étaient à Madagascar. Ma mère a décidé d'aller étudier en France, à Paris. Mon père est allé étudier à Sherbrooke. Ils se connaissaient pas dans ce temps-là, mais leur famille se connaissait parce que, bon, les Chinois de Madagascar à cette époque se connaissaient pas mal, tous et toutes. Et, éventuellement, étant encore célibataires, leurs mères respectives, qui se connaissaient bien, ont commencé à se parler, puis à se dire, nos enfants, hein, ils sont célibataires, ils pourraient peut-être faire un bon match. Donc, mon père est, a envoyé une correspondance et sa photo.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour les stalker.
Non. Donc, il envoyait une belle petite photo. Et ensuite, il est venu à Paris rencontrer ma mère. Tout ça, c'était organisé par leur mère aussi, là. De fil en aiguille, ils ont commencé à se fréquenter. Ma mère est venue au Québec faire un voyage en Gaspésie, au terme duquel il y a eu une demande en mariage. Elle a quand même décidé de prendre le temps de réfléchir et de retourner en France pour bien... c'est une grande décision, on s'entend. Mais finalement, elle a accepté. Puis, ils se sont mariés à Paris. Il y a eu un autre mariage, comment qu'on appelle ça, un mariage civil?
Ouais.
À Montréal. Puis ils ont déménagé ensemble à Montréal. Mais en fait, à l'époque, c'était Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles n'était pas fusionné. Ouais. Donc, ouais. Au début, ils habitaient à Pointe-aux-Trembles.
D'accord. Et toi, t'es née à Montréal.
Ouais. Je suis née à Montréal.
Et comment tes parents, ils t'ont parlé de leur héritage familial? Parce que déjà, eux, ils n'ont pas grandi dans le pays de leurs parents. Fait qu'à chaque génération, finalement... Ouais. Depuis trois générations, il y a des pays différents. Pour eux, la Chine, ça doit être déjà assez lointain, j'imagine.
Très lointain. Mon père et ma mère n'ont pas vécu la même chose. Évidemment, ils n'ont pas grandi dans la même famille. Mais oui, ça reste que de ce qu'on m'a dit, ils se faisaient très peu parler de la Chine. Ils parlaient cantonais dans la famille. En fait, la seule... Ils parlaient en cantonais avec leurs parents. Mais sinon, à Madagascar, la langue à l'école, c'était le français. Mm-hmm. Avec les amis, c'était le français. Donc déjà, il y avait... On peut déjà voir la perte de la langue là, qui a commencé à ce moment-là puis qui a continué avec nous. Nous étant mes sœurs et moi. Et donc, eux, était très loin de la Chine. Et donc, quand nous, ça a été le moment de nous élever, la Chine, on n'entendait jamais parler de ça. Et Madagascar non plus. Je pense qu'il n'y a pas eu ce réflexe-là de parler du pays, de l'enfance. On était au Québec, puis voilà, on écoute la télé en soupant, puis on parle pas de ces histoires-là.
Est-ce que tu sais comment tes parents ont été perçus quand ils sont arrivés? Parce que en ayant grandi à Madagascar et c'était francophone, ça devait étonner des gens, non? Que des personnes avec des noms chinois, physiques, asiatiques, parlent aussi bien français. Mm-hmm. Ça s'est passé comment pour eux?
Je pense que je leur ai jamais demandé exactement cette question-là, mais je leur ai posé beaucoup de questions, ben, en fait, à mon père, là, parce que c'est ça, ma mère, faut dire qu'elle est décédée en 2007. Donc, j'avais pas encore, à 15 ans, j'avais pas cette propension à poser des questions, puis cet intérêt à vouloir m'intéresser à l'histoire de la famille. Donc, il y a beaucoup de choses, là, en tout cas, du côté de ma mère qui ne seront jamais connues. Mais je suis allée quand même poser des questions aux gens qui l'ont connue. Quand elle était jeune. Donc, de ce que moi, je me suis fait dire... pardon, j'ai perdu le fil. C'était quoi la question?
Comment tes parents, ils ont été perçus quand ils sont arrivés? Parce qu'ils parlaient super bien français, mais les gens devaient peut-être pas s'attendre à ça.
Ben, ouais, je pense que c'était une surprise, c'est sûr. Mais très positive. Donc, c'était vraiment un... Comment dire, je pense que le lien se créait plus facilement, le lien amical, ou parce que justement, ok, vous parlez français, mais ça fait que vous êtes beaucoup plus accessible. Je pense que c'est tout ce que je peux dire. J'ai pas vraiment eu de détails là-dessus.
Et toi, en tant que femme asiatique, avec un nom de famille chinois, mais dont ça fait deux générations, finalement, que vous ne vivez plus en Chine. Comment est-ce que tu es perçue et comment ça a évolué au fil du temps aussi pour toi, de ta manière de te percevoir?
Ça l'a beaucoup changé. Je raconte souvent que j'ai eu ma phase asiatique au secondaire, par exemple. Là, je tripais tout ce qui était asiatique, surtout japonais, les animés, les mangas, puis coréen. J'ai vraiment trippé sur des shows de télé coréens. J'avais appris à lire le coréen.
Ah ouais?
Ouais, parce que c'est un alphabet. Ouais. C'est super facile, en fait, apprendre à lire. Après, tu prononces des choses que tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais tu peux lire quand même. J'ai eu cette force-là asiatique. J'avais deux amies asiatiques au secondaire. Mais après ça, il y a comme eu un rejet de ça au cégep. Je me suis plus immergée dans la culture québécoise, disons. Puis au fil du temps, il y a comme eu, c'est des réflexions de comme, mais moi, j'ai pas à choisir. J'ai pas envie de choisir. Puis justement, ça me tiraille de devoir choisir et d'avoir fait ces choix-là dans le passé. Donc ça a été je pense, à un moment, je me suis dit, ben c'est en posant des questions à ma famille que je vais un peu plus comprendre d'où je viens puis d'où tout ça se mélange. Parce que, tu sais, même mes parents, eux, ont vécu ce métissage-là en ayant grandi, ben vécu dans des pays occidentaux, en ayant grandi à Madagascar. Donc, je me suis dit, c'est par les récits de famille que je vais trouver peut-être un début de réponse. Donc, en 2019, j'ai fait un jeune volontaire. Et dont le projet, ça a été de recueillir les histoires de famille et de les mettre en valeur, d'une certaine façon, dans un projet musical. Ouais. Donc, puis ça m'a mené, là, peut-être que je saute des étapes dans tes questions, là, mais ça m'a mené éventuellement au projet de livre avec mes sœurs, où est-ce que tout ce processus-là de poser des questions à ma famille, ben finalement, je l'ai continué, mais en posant des questions sur la cuisine, le jardinage, les recettes. Puis ça a ouvert tout un univers là, d'histoires qui était vraiment riche. Puis à travers tout ça, moi, j'arrivais à plus faire la paix avec mes identités multiples. Parce que, en effet, tu l'as nommé, il y a Madagascar dans tout ça, mais Madagascar, ça se voit pas dans ma face ou dans la face de ma famille, parce qu'on n'a pas de sang. On n'a pas de sang malgache. Donc, à un moment donné, ça a été vraiment... Quand les gens me demandaient d'où je venais, je prenais vraiment le soin puis le temps de dire oui, mais Madagascar. J'avais vraiment besoin de nommer Madagascar parce que ça définit quand même notre culture familiale. Puis parce que ça paraît pas dans nos faces, c'est comme si j'avais envie de le marteler. Tu sais, ça fait partie. Là, c'est pas dans notre sens, pas dans notre face, mais c'est quelque chose de très précieux pour ma famille, ce passage-là, puis tout ce que Madagascar leur a apporté dans leur vie.
Tu parlais de musique. Oui. Toi, t'es violoniste. C'est ton métier, en fait.
Oui, je suis violoniste, violonneuse. Je tente le slash parce que je fais surtout de la musique traditionnelle. Je dis aussi que je suis podorythmiste, donc je tape du pied.
Ok.
Je fais de la podorythmie. Puis d'autres instruments à mes heures perdues. Puis oui, c'est mon métier à temps plein depuis seulement 2021. Mais avant ça, j'étais musicienne pigiste à temps partiel et aussi travailleuse culturelle à temps partiel.
Et la musique que tu joues, comme tu disais, c'est quand même de la musique assez québécoise traditionnelle. Comment la musique, elle t'a aidée dans ta construction identitaire?
Alors, je suis entrée dans la musique traditionnelle par la musique traditionnelle québécoise, mais via ce créneau-là, je me suis ouverte aux autres musiques traditionnelles, à d'autres types de musiques traditionnelles. Je voulais juste le préciser depuis. Puis en arrivant à Rimouski, je suis rentrée dans l'univers de la musique improvisée, parce qu'à Rimouski, on a un collectif de musique improvisée, le GRIL, qui est un acronyme pour le Grand Groupe Régional d'Improvisation Libérée. Puis c'est sûr que quand je te parlais tantôt que je me suis immergée dans la culture québécoise, je me suis intéressée à l'histoire, à la politique, tout ça. Mais il manquait quelque chose. Puis je me sentais encore déconnectée, tu sais, de l'expérience de la culture québécoise. Je sentais qu'il manquait quelque chose. Puis, bon, je fais un raccourci, là, parce qu'on n'a pas 4 heures non plus, mais éventuellement, j'ai fait un voyage en Irlande. Et j'avais mon violon. J'étais en Irlande, je l'ai déjà dit. Mais ça arrive, c'est sûr que je me suis faite happer par la musique traditionnelle irlandaise. Je n'avais pas le choix. Les gens me voyaient qu'un violon était comme « Toi, viens! » Donc, je suis tombée en amour avec la musique traditionnelle irlandaise et c'est de cette façon-là que j'ai réalisé qu'il y avait tout ce patrimoine-là au Québec et je suis tombée en amour avec ça. Puis c'est à travers la musique traditionnelle québécoise que j'ai vraiment... là, c'est là que j'ai senti que j'avais une connexion. Pourquoi? Parce que je rentrais dans des communautés vivantes qui... font évoluer, qui réactualisent ces traditions-là, mais ça reste tellement social puis inclusif. Donc, je me suis vraiment... je pense que j'ai vraiment... Il y a une partie québécoise en moi qui s'est apaisée et énergisée en même temps quand je suis rentrée dans cet univers-là de la musique trad.
Parce que c'était quoi ton répertoire avant?
Moi, j'ai appris... Dans les orchestres, j'ai vraiment appris au public. Là, donc, j'étais à l'école Le Plateau, puis à Joseph-François Perrault. Donc, j'étais...
Qui est un programme de musique?
Musique concentration, ouais, ben aussi option, mais moi, j'étais en concentration musique. Donc, c'était du répertoire d'orchestre. Il y a eu quand même quelques pièces qu'on apprenait, puis là, il y a eu des concours et tout ça, mais moi, j'aimais vraiment pas ça, jouer toute seule. En fait, moi, ce qui me faisait triper, c'était de jouer en groupe. Donc, après avoir fini le secondaire, quand même, le classique, ça ne m'intéressait pas assez pour que je continue là-dedans. Donc, j'ai étudié dans un truc, pas en musique. Je ne suis pas allée en musique tout de suite au cégep, mais il y a un jour, je pense que c'est un ami, je ne me rappelle même plus, qui m'a passé un CD de Stéphane Grappelli. Et là, j'ai fait, ben voyons, on peut jouer ça sur du violon. Ben moi, je veux apprendre. Je veux apprendre ça. Donc, je suis allée en jazz pop à Saint-Laurent. Mais j'avais jamais improvisé de ma vie. Donc, c'était un peu... disons que la marche était haute. J'ai vraiment apprécié mon expérience en jazz, mais en sortant de là, de mes 3 années, j'étais pas arrivée à me sentir à l'aise avec le jazz. Et donc, j'étais un peu perdue musicalement. Et j'ai fini par atterrir en Irlande. Donc, c'est d'accord. Là que j'ai rencontré la musique traditionnelle.
C'est drôle parce que ben moi, j'ai appris le violon pendant 8 ans quand j'étais enfant, ado. Et on m'avait aussi offert un CD de Stéphane Grappelli. C'est comme le musicien qui fait entrer dans le violon jazz.
Mm-hmm, ben oui. Ben oui, puis il n'y a pas beaucoup de violonistes jazz, là. Mm-hmm. De plus en plus, maintenant, dans les dernières années. T'sais, dont on entend vraiment parler, tout ça. Mais sinon, c'est ça. Puis dans les pionniers, pionnières, il n'y en a pas beaucoup, Stéphane. C'est quelque chose, c'est un phénomène quand même.
Et est-ce que dans ta recherche de musique traditionnelle, t'es aussi allée vers des musiques asiatiques?
Éventuellement, oui. Donc, c'est ça, j'avais des projets en musique traditionnelle québécoise, un peu d'autres musiques traditionnelles. Puis en parallèle, j'avais les histoires de famille, ça m'habitait beaucoup. Puis j'avais envie de développer un projet où est-ce que je pouvais vraiment explorer tout ça. Et donc, je me suis penchée sur la musique traditionnelle chinoise avec une perspective de comme un exercice de style. Parce que j'ai pas grandi, moi, avec la musique trad chinoise. Même mes parents ont pas grandi avec ça. Il y a comme mes grands-parents qui écoutaient des fois peut-être des airs traditionnels chinois ou de l'opéra chinois. Bon, mais ça l'a pas vraiment imprégné, là, vraiment notre culture familiale. Donc, c'est vraiment... Je l'ai un peu forcé. Je me suis dit, moi, mon matériau à moi, c'est la musique traditionnelle. C'est devenu ça. Alors, par ce canal-là, je vais aller intégrer mes réflexions identitaires là-dedans. Donc, musique traditionnelle chinoise. Ce qui a créé le projet Lieu, au féminin pluriel, donc L-I-E-U-E-S, qui entremêle musique trad québécoise et chinoise et de la musique improvisée aussi. Donc, en fait, le concept, c'est que j'utilise la musique improvisée, les codes de la musique improvisée, pour flouer les frontières entre la musique trad québécoise et chinoise. Parce que sinon, c'est assez difficile de mixer des différents styles musicaux, que ce soit trad chinois, trad québécois, ou juste rock et je sais pas, là, n'importe quoi d'autre. Là. Mm-hmm. En tout cas. Donc, ouais, je trouve que ça a été ça, mon pari, pour que ce projet-là soit comme un peu un reflet de mes identités à moi, c'est-à-dire c'est très flou, c'est évolutif, il n'y a pas de frontières claires. Tu n'es pas un truc, puis tu deviens un autre 4 ans après. C'est tout ce mélange constamment.
Et tu parlais aussi du fait que tu as fait un livre avec tes sœurs.
Ouais.
D'ailleurs, récemment, je suis allée à la buvette Hellsdale dans Rosemont, et il y avait ce livre-là. Mm-hmm. Est-ce que tu peux parler de ce projet-là?
Oui. C'est certainement une des réalisations dont je suis le plus fière là, dans ma vie. Donc, j'ai 2 grandes sœurs. Elles s'appellent Caroline et Stéphanie. Stéphanie est maraîchère spécialisée en légumes asiatiques biologiques à Frelichburg, dans les cantons de l'Est, donc tout près des États-Unis. Donc, il fait, disons, c'est l'endroit où, au Québec, il fait le plus chaud, là, où la saison maraîchère est bien, bien longue. Et donc, elle a commencé à faire ça, à vendre ses légumes, et les gens étaient très réceptifs, très encourageants, mais un peu perdus quant à l'idée de, OK, ben, déjà, qu'est-ce que je fais avec, comment je conserve?
Qu'est-ce que c'est, par exemple, comme légumes?
Alors, il y en a vraiment beaucoup. Je pense à chaque année, elle en cultive peut-être 30-40. Mais dans le livre, on en présente 15. Donc, je vais les nommer un peu en vrac comme ça, là. Okra, choy sum, bok choy, aubergine asiatique, concombre asiatique, épinard de Malabar, chou napa, voilà, il y en a d'autres, là. Citronnelle, shiso. Et donc, c'est ça, elle commençait à vendre ces légumes-là, mais il y avait vraiment comme un besoin de aussi faire découvrir comment les consommer, comment les cuisiner. Et mon autre sœur, Caroline, elle, ça tombe bien. Elle est nutritionniste. Ouais, tout un combo.
Tout est dans tout.
Ouais. Donc, Caro, elle a proposé à Steph de l'aider à préparer une infolette où est-ce qu'il y aurait cette information-là?
En fait, c'est un mode d'emploi, finalement, des légumes qu'elle produit.
Exactement, avec aussi une fiche nutritionnelle et tout ça, les valeurs nutritives. Parce que, aussi, il n'y a pas vraiment... En français, il n'y a pas... Ben, avant qu'on publie notre livre, il n'y avait pas d'ouvrage de référence sur les légumes asiatiques. Il y avait de l'information sur les légumes asiatiques, mais éparpillée, un peu perdue dans des ouvrages de référence qui ne sont pas spécialisés en légumes asiatiques. Donc, c'était assez difficile de trouver cette information-là, en français. Voilà, elles ont commencé cette infolettre. Puis, de fil en aiguille, on ne sait pas trop c'est qui a eu l'idée en premier, mais elles ont eu l'idée de rassembler toute cette information-là dans un livre. Et moi, parallèlement, je faisais le jeune volontaire dont j'ai parlé tantôt. Je collectais les histoires de ma famille. Puis, tout ça, c'est un peu mis ensemble. Donc, comme Stéphanie, je crois bien que c'est Stéphanie qui m'a demandé « Est-ce que tu veux te joindre à nous? » On ferait comme un livre, on écrirait un livre qui mélange maraîchage, cuisine et récits de famille. Parce que aussi, il faut le dire, c'est pas banal là, que ma sœur cultive des légumes asiatiques. On a grandi avec certains de ces légumes-là. Pas que, là. Notre mère cuisinait assez diversifiée. Elle avait ses recettes chinoises, mais aussi des recettes françaises. Elle avait habité en France. Et elle avait grandi à Madagascar, où est-ce que la culture française est quand même assez présente. Donc, voilà. Puis elle explorait plein de choses, notre mère. Donc, peut-être pour ma sœur... Cuisiner des légumes asiatiques, peut-être que c'était un peu la même chose que moi m'intéresser à la musique traditionnelle chinoise. Puis ça faisait aussi du sens d'offrir ça au Québec pour diversifier l'offre alimentaire locale, pour la souveraineté alimentaire, pour tellement de raisons. Là, c'est tellement pertinent à plusieurs niveaux, aussi juste des légumes différents dans nos assiettes parce qu'on est tanné de manger juste des carottes puis des patates, puis bon, en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça que ce projet-là est né et a pris forme.
Et comment s'appelle le livre?
Ça s'appelle « Légumes asiatiques, jardiner, cuisiner, raconter ».
Et on peut le trouver facilement?
On peut le trouver facilement dans les grandes librairies, Renaud-Bray-Archambault, etc. Aussi, on a toutes des copies qu'on vend nous-mêmes.
Okay.
Donc, si vous pouvez nous écrire, nous trouver sur les réseaux sociaux, puis nous écrire. Puis, si vous êtes proche de soit Montréal, Gatineau, Frélichburg ou Rimouski, on a certainement des copies à vendre. Et en automne passé, la version anglaise est sortie.
Ah, oh, vous l'avez fait traduire?
Ouais, ben en fait, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Ben, rien à voir, c'est une exagération.
C'est quand même votre travail.
Oui, c'est notre travail, mais pour la traduction, c'est une maison d'édition à Toronto qui a vu ça passer et qui a acheté les droits. Et bon, oui, on a eu notre mot à dire pour comme valider la traduction, puis même, il y a eu quand même plusieurs corrections. Ça, on a trouvé ça étonnant, là, que... On relevait beaucoup de choses à corriger dans la traduction qu'on nous avait soumise. Donc voilà, donc ça a pris son envol en anglais l'automne passé. Donc c'est vraiment c'est chouette de se dire que ce livre-là il vit sa vie puis il est dans un monde anglophone. Ouais, c'est vraiment super parce que tantôt j'ai dit qu'il y avait aucun ouvrage de référence en français sur les légumes asiatiques. Il en existe très très peu en anglais aussi là. C'est pas il n'y en a pas 40 millions en anglais.
Et j'aimerais revenir au fait que tu vis à Rimouski maintenant, parce qu'en ayant grandi à Montréal, c'est quand même une expérience tout à fait différente de venir d'une famille immigrante à Montréal où il y a beaucoup de communautés différentes, où il y a même un quartier chinois à Montréal, et d'être à Rimouski où la population est beaucoup plus homogène. Est-ce que toi, en tant que Québécoise, dans ton identité, le fait de déménager à Rimouski, ça, a changé des choses?
Ça a changé beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses, à plusieurs niveaux. Donc, j'ai grandi en me sentant vraiment montréalaise. Ça a pris du temps là, avant que je me considère québécoise, parce que je connaissais pas le reste du Québec. C'était un peu hypocrite, je pense, pour moi, de penser me considérer québécoise si j'avais juste connu Montréal.
Mais en même temps, Montréal, c'est au Québec.
C'est au Québec, mais en même temps, tu sais, oui, je me sentais québécoise, montréalaise, mais quand même, il manquait comme toute cette connaissance du reste du territoire. Puis, j'enviais quand même mes amis. Beaucoup de mes amis ont grandi dans d'autres villes que Montréal, mais sont venus étudier à Montréal, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et quand on parlait des territoires du Québec, de la culture québécoise, je sentais que le fait qu'ils aient connu au moins deux villes au Québec, ils avaient accès à quelque chose. J'avais vraiment envie de connaître ça. Donc, ça a motivé, entre autres, ma décision de déménager à Rimouski. Après, sur le plan d'être une minorité visible et, mettons, au moins me sentir parmi une diversité à Montréal, c'est sûr que j'ai fait une croix là-dessus. Enfin, Rimouski, ben pas une croix complète, là, parce qu'il y a quand même, une certaine diversité là, bon, à Rimouski, même si elle n'est pas aussi importante qu'à Montréal. Mais bon, vraiment sur le plan des cultures asiatiques, de pouvoir parler cantonais, ou du moins de pouvoir aller m'immerger dans un univers cantonais, par exemple, dans le quartier chinois, ben ça, j'ai plus accès à ça. C'est sûr que c'est une perte quand même. Puis d'ailleurs, au début de la pandémie, j'avais des cours privés en cantonais, à distance. Il a fallu que je les arrête parce que ça faisait plus de sens. De continuer ça alors que je pouvais pas pratiquer où est-ce que j'habite. Donc oui, il y a ce genre un peu de concession, disons. Puis culturellement aussi, là, je suis musicienne, j'aime ça baigner dans un univers culturel riche. Il se passe plein de choses à Rimouski, là, surtout depuis une couple d'années. Mais c'est sûr que, bon, ça fourmille énormément à Montréal, puis des fois, je me sens loin de ce dynamisme-là.
Est-ce que tu as appris le cantonais avec ta famille ou c'est une démarche personnelle d'aller suivre des cours de cantonais pour apprendre cette langue?
Donc, nous, on a vraiment été élevés en français avec certains mots ou certaines expressions qui étaient tout le temps en cantonais. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Par exemple, se brosser les dents, c'était tout en cantonais.
Oh ouais. Comment est-ce qu'on dit?
Chagna. Ou, c'est quoi? Ah oui, pelleter de la neige.
Ah oh ouais.
Il le disait toujours en cantonais, puis ça,
alors
c'est une anecdote.
L'activité la plus québécoise.
Québécoise, puis ça, c'est une anecdote que j'adore parce que je devais être au primaire. 10, 11 ou 12 ans, puis j'avais pelleté la neige la veille, puis je voulais dire à mes amis que j'avais fait ça. Et là, ah, ça bloque. Je sais pas comment dire en français. Alors que je suis née à Montréal. Alors, il me venait juste les mots en cantonais qui est chansut. Donc, c'était assez spécial, mais ça a été vraiment la seule chose, le seul bug de langage. Après ça, c'est ça, il n'y avait pas assez de choses que mes parents disaient qu'en cantonais pour que ça soit vraiment imprégné en moi. Puis au secondaire, j'ai décidé de prendre des cours de cantonais parce que aussi, je constatais toute la barrière de la langue avec mes tantes, mes oncles, mes grands-mères. Mes grands-parents, mes grands-pères étaient déjà décédés. Parce que ben, ces personnes-là, ben, mes grands-mères parlaient que cantonais.
Okay.
Et mes tantes, mes oncles parlaient français, mais dans les parties familiaux, ça parlait librement en cantonais, français. Moi, je me plais à appeler ça le frantonais. Donc, dans ma famille, on parle le frantonais. Ça passe de cantonais à français, là. C'est comme, ouh, c'est une nouvelle langue, c'est magnifique. J'adore, j'ai le rêve un jour de mettre en valeur ça, de le faire connaître ce mélange-là.
Des poèmes en frantonais, par exemple.
Oui, j'ai déjà essayé. Mais je connais pas assez le cantonais pour ça. Mais ouais, c'est juste magnifique. Donc, motivée par ça, j'ai pris des cours de cantonais le samedi matin. yes, je me levais, j'étais motivée, mais je revenais chez moi et j'essayais de parler en cantonais à mes parents, puis ils me répondaient en français. Donc éventuellement, j'ai arrêté parce que je voyais que ça mordait pas. Puis pendant la pandémie, en fait, c'est un peu avant la pandémie, j'avais commencé mon jeune volontaire, je m'intéressais à ma famille, aux histoires de famille. Puis, je me rappelle vraiment un moment en particulier où est-ce que j'ai posé des questions à ma tante, Dani, qui d'ailleurs, il y a des recettes d'elle dans le livre, puis un portrait d'elle. Et elle, c'est ça, t'sais, beaucoup de tantes ont quand même passé beaucoup de temps à Madagascar avant d'émigrer et étaient en contact avec les communautés chinoises. Là, donc, ça parlait cantonais au quotidien. Donc, ils ont beaucoup gardé leur cantonais, contrairement, mettons, à mes parents, qui ont quitté assez jeune. Et avec ma tante, au début, je m'essayais. Je lui posais des questions en cantonais, puis j'essayais de jaser avec elle en cantonais. Puis je me suis rendu compte que quand qu'elle me répondait en cantonais, il y avait comme quelque chose qui se passait. J'avais accès vraiment à ma tante et non à sa version francisée qui n'était pas sa langue maternelle, en fait. Parce qu'il faut le dire, mes parents, leur langue maternelle, c'est le cantonais.
OK, c'est à l'école qu'ils ont appris le français.
C'est à l'école qu'ils ont appris le français. Et graduellement, au cours de leur vie, ils ont perdu leur cantonais. Et c'est pour ça qu'ils nous ont élevés en français. Ils auraient voulu nous élever en cantonais, mais ils l'avaient déjà perdu. Mais quand j'ai réalisé, waouh, tu sais, si je maîtrisais plus le cantonais, je pourrais entrer en plus en relation avec ma famille, puis avoir accès à une partie d'eux et elles à laquelle j'ai pas accès en ce moment. Ça m'a motivée. Puis donc, j'ai commencé des cours de cantonais à Montréal. Puis après ça, à distance, quand j'ai déménagé.
Et aujourd'hui, tu as arrêté les cours, mais est-ce que tu es encore dans l'idée d'approfondir le cantonais?
Absolument. Ouais, j'ai le plan d'aller en Chine, à Guangdong, puis à Hong Kong. Donc, je me dis, quand ces plans-là vont se confirmer, je vais vraiment me remettre au cantonais, puis j'aurai un objectif clair. Donc, ça sera plus facile de me dire, OK, là, il y a un sens, tu sais, à ces cours-là, parce que je peux aller m'immerger bientôt.
Les villes que tu citais, que tu veux visiter en Chine, c'est les villes d'origine des membres de ta famille?
En fait, le Guangdong, c'est la province. Okay. Guangzhou, c'est la capitale. Mais ma famille vient de la campagne, que je ne pourrais même pas piner ça sur une carte, honnêtement. On dit qu'on est des Suntak. Donc, c'est vraiment ça. C'est une région du Guangdong. Donc, j'aimerais évidemment, c'est ça, aller visiter cette région-là. Puis, ma grand-mère maternelle, elle vient de Hong Kong. Mon père, c'est ça, est né là. Juste à passer une année de sa vie. Donc oui, j'aimerais visiter Hong Kong. En plus que vraiment, Hong Kong, c'est à mes yeux, c'est là où est-ce que la culture cantonaise est vraiment vibrante là. Tu sais, il y a tout le cinéma hongkongais qui a partagé la culture cantonaise. Donc ouais, j'ai vraiment envie d'aller là, de faire des projets de musique.
Donc, tu as l'air d'avoir des attentes par rapport à ce voyage, mais est-ce que tu as aussi des appréhensions parce que tu vas être confronté à des choses probablement que tu n'attends pas? C'est quand même souvent les gens qui font des voyages comme ça dans le pays d'origine de leurs parents, quand il n'y a pas de lien qui a été gardé depuis longtemps, ça peut être assez confrontant. Est-ce que tu te prépares à ça?
Oui, je pense que peut-être pas assez. Mais c'est sûr que je m'attends à me faire dire, voyons donc, tu parles pas très aussi bien cantonais qu'on aurait pensé ou des choses comme ça. Que ce soit de la famille ou des étrangers, là, des gens que tu rencontres en voyage. Donc, ça va. Ça, je pense que j'ai vécu ça toute ma vie. Donc, ça va être juste un niveau un peu plus important. Mais ça va, je suis quand même assez en paix avec qui je suis et tout le bagage, le fait qu'on n'a pas été élevé en cantonais. En tant qu'enfant, on ne choisit pas là, la langue dans laquelle on se fait élever, donc certainement pas ma faute là, que je ne parle pas cantonais. Donc ça va. On a aussi reçu beaucoup de commentaires, je pense, qu'on était enfant de notre famille au Québec, comme quoi qu'on ne parlait pas cantonais. Donc ça a été difficile, mais ce processus-là, on l'a déjà vécu. On a déjà fait un bout de chemin là-dessus. Donc ça... Je me dis, c'est déjà ça de gagner.
Est-ce que tu veux y aller avec tes sœurs?
Ah, j'aimerais ça un jour, mais je pense que c'est pas nécessairement dans les plans là, de faire un voyage en Chine. En tout cas, mon premier voyage par moi-même, je pense que ça va vraiment être orienté vers la musique. Et je compte un peu là-dessus, en fait, pour entrer en contact avec les gens et la culture. C'est vraiment via la musique. Je l'ai déjà expérimenté là, quand j'étais en Irlande, mais en fait, c'est un voyage de 11 mois où est-ce que j'avais mon violon sur le dos. Puis le fait d'avoir un violon, je suis absolument certaine que ça a changé comment j'ai vécu ce voyage-là, puis comment les gens me percevaient et entraient en contact avec moi. Puis un exemple flagrant, ben, c'est l'Irlande. Puis surtout, si je monte un projet, par exemple à Hong Kong, parce que ça, c'est un vrai plan là, qui se trame en ce moment même. Si j'ai un lieu culturel qui m'accueille, il y a des gens qui font partie de ce lieu-là. Donc, il y a quand même, à travers ce projet-là, j'ai déjà un canal où est-ce que je suis en contact avec des locaux. Puis je ne suis pas juste une touriste, en fait.
Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que toi, tu aurais aimé aborder?
Il y a un truc tantôt qui m'a popé dans la tête, puis je ne l'ai pas mentionné parce que ça m'a juste... la discussion a évolué, mais on parle souvent... Tu sais, on se pose souvent la question, donc toi, t'es première ou deuxième ou troisième génération et tout ça. Puis pendant longtemps, tu sais, je me définissais vraiment, je suis une deuxième génération. Je suis une deuxième parce que je suis née à Montréal. Mais un jour, j'ai réalisé, mais je suis deuxième de Madagascar parce que mes parents sont nés à Madagascar, mais de la Chine, en fait, je suis troisième. Puis là, ça a vraiment tout changé une perspective en moi, d'être comme, OK, donc on dirait que le fait de nommer de cette façon-là la distance par rapport à la Chine, ça fait que je comprends mieux toute ma confusion identitaire par rapport à la Chine. Il y a quand même eu ça qui s'est passé en moi. Parce que des fois, je sais pas, à travers ce processus-là, ça m'est arrivé, tu sais, pas de me flageller, mais un peu de me dire, mais voyons, tu parles pas cantonais, voyons, t'as autant de misère à apprendre le cantonais. Parce que je considère que je suis quand même quelqu'un qui a une facilité avec les langues. Puis le cantonais, ça a vraiment de la misère à rentrer. Puis je me suis dit, c'est ça, il y a comme quelque chose qui me chicotait là-dedans. C'est ça. Deuxième, troisième génération, quatrième, ça n'a pas rapport avec la langue. Mais bref, de réaliser quand même, OK, tu sais, des fois de nommer les choses, juste la compréhension, ça amène comme une paix puis une sérénité envers ces réflexions-là. Puis aussi, une chose qui est. Peut-être dont on n'a pas parlé, c'est pendant la pandémie, il y a eu une montée du racisme anti-asiatique. Puis ça, je pense, le fait aussi de voir plein de gens dans les communautés asiatiques, à Montréal notamment, décrier ça, puis se mobiliser contre ça, ça m'a comme mon sentiment d'appartenance, entre guillemets, à ces réalités qui sont similaires aux miennes. Ça m'a fait sentir plus fière d'être asiatique.
D'accord.
Moins seule.
Finalement, c'est dans la difficulté, dans l'adversité que ça a rassemblé.
Oui, c'est ça. Puis je me suis sentie un peu comme, OK, il y a des gens qui vivent ça, mais aussi dans la mobilisation. Tu sais, moi, je ne me suis pas mobilisée. J'étais à Rimouski, je ne pouvais pas vraiment participer à tout ça, mais de voir qu'il y avait quand même des communautés qui étaient vivantes puis assez solides pour être solidaire puis se mobiliser, ça m'a vraiment rassurée. OK, il y a vraiment des communautés asiatiques, c'est ça, qui se mettent en mouvement au Québec, puis j'ai envie d'en faire partie. Je me suis sentie très loin de Montréal à ce moment-là. Parce que aussi, autre chose que j'ai pas nommée, moi, j'ai grandi quand même détachée des communautés asiatiques à Montréal. On était vraiment dans notre coin. C'est sûr qu'on était reliés un peu aux Chinois de Madagascar. Mais on les voyait une fois par année.
D'autres personnes à Montréal qui étaient des Chinois qui avaient grandi à Madagascar.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, la diaspora d'origine chinoise de Madagascar. Ouais. Mais tu sais, sinon, toute la communauté chinoise reliée au Chinatown, ça, pas du tout aucun lien avec, avec cette communauté-là ou ces communautés-là. Donc, c'est ça, la pandémie, avec tout ce qui se passait comme mobilisation, c'était la première fois que je me disais, waouh, ok, peut-être que j'aurais envie de faire partie de ça.
Donc ça, c'est to be continued.
Ouais, voilà. Un jour, si je retourne à Montréal.
Ok. Mm. Puis ma dernière question, tu l'as entendu parce que tu m'as dit que tu avais écouté plusieurs épisodes, c'est si tu devais nommer un objet culturel qui te représente avec toutes tes influences, quel serait-il?
Ben, j'y ai pensé, là, parce que j'avoue que j'ai écouté quand même plusieurs épisodes de ton balado. Puis c'est super, d'ailleurs. Merci, bravo.
Merci.
J'apprécie vraiment beaucoup. Ben, la réponse assez évidente, je pense, vu mon métier, c'est la musique, puis même plus précisément la musique traditionnelle. Ben, c'est ça que je fais dans mon métier, en fait. Je m'intéresse à différentes cultures via la musique traditionnelle. Puis oui, des cultures qui sont liées à mon identité, puis où est-ce que j'ai grandi, mais aussi des cultures autres. Puis vraiment, évidemment, en étant très sensible à tout ce qui est d'enjeu de d'appropriation culturelle, puis d'essayer de vraiment comprendre le code puis l'univers pour jouer ces musiques-là.
D'ailleurs, je me demandais si tu avais ton violon ici, puis oui? Si tu jouerais quelque chose
pour
faire entendre à nos auditeurs et auditrices.
Oui, je pourrais. Je pourrais bien.
Ce serait le fun.
Mm-hmm. Ouais, je vais trouver de quoi, là.
Ok, merci. Ben, merci pour cette entrevue, en tout cas.
Et merci à toi. Chauffeur,
je pense que c'est correct.
Ouais.
C'est ça, tu peux y aller.
Ok.
Que vas-tu nous interpréter?
Ben oui, c'est ça, je vais vous présenter brièvement la pièce. C'est du répertoire de Yvon Mimot. Yvon Mimot, c'est un violonneux de la région. Il habite à Mont-Joli, mais il vient de Mont-Louis à la base. Puis, super beau répertoire que j'adore. Et cette pièce, elle s'appelle Fort Warden. Et si je ne m'abuse, c'est du répertoire de son père à lui. Et ils vont rajouter la troisième partie. Parce qu'il y a trois sections à la pièce. Donc, voici Fort Warden. Mm. Thank you.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, il a été réalisé avec CISM. Pour ne manquer aucun épisode de Québec au pluriel, je vous invite à vous abonner à Québec au pluriel en trois mots sur les plateformes d'écoute et à laisser un cœur en 5 étoiles ou n'importe quelle manifestation de votre appréciation de Québec au pluriel. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode enregistré à Rivière-du-Loup.